Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
L'essence de tout panthéisme, de tout évolutionnisme et de toute religion cosmique moderne se trouve en réalité dans cette proposition. La nature est notre mère. Malheureusement, si vous considérez la nature comme une mère, vous découvrirez qu'elle est une belle-mère. Le principal argument du christianisme était le suivant. La nature n'est pas notre mère, elle est notre sœur. Nous pouvons être fiers de sa beauté, puisque nous avons le même père, mais elle n'a sur nous aucune autorité. Amis auditeurs, bonjour. Cette magnifique de Chesterton nous fait prendre conscience de la splendeur de la vision chrétienne sur la création. Cette vision n'est cependant pas partagée par toutes les religions, et notamment l'hindouisme, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Et pour évoquer cette religion si particulière, j'accueille aujourd'hui Philippe Benoît. Bon, monsieur Benoît.
Bonjour.
Monsieur Benoît, vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, autrement appelé l'INALCO. Vous êtes également spécialiste de l'hindouisme. L'hindouisme est l'une des plus anciennes religions du monde, sans fondateur ni livre sacré comme la Bible ou le Coran. Quelles sont les origines de cette croyance ?
Alors, les origines de l'hindouisme se perdent dans la nuit des temps. En fait, c'est certainement une des religions les plus anciennes dont on ait trace. Mais paradoxalement, elle ne s'appelle hindouisme, on n'utilise ce nom que depuis environ la fin du 19e siècle. C'est un nom qui est un nom étranger, un nom d'origine européenne qui a été donné et qui doit beaucoup, bien sûr, à la présence coloniale, à l'œuvre du colonisateur britannique, qui, dans son souci de comprendre et d'avoir des statistiques, notamment sur les appartenances religieuses de ses administrés au sein de l'Empire britannique, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, s'est lancé dans des recensements de la population. Et une partie des questions posées lors de ces recensements concernait justement l'identité religieuse des gens. Alors, il y avait quelques chrétiens, il y avait pas mal de musulmans, puisque c'est une région du monde, l'ancien empire des Indes, l'actuelle Inde, Pakistan, Bangladesh, et ce qu'on appelle aussi l'Asie du Sud de nos jours, dans laquelle l'islam est depuis longtemps très implanté et la deuxième religion très importante en nombre. Et les autres, alors, ceux qui n'étaient ni chrétiens ni musulmans, comment les définir ? Et le problème, c'est que ces personnes qui étaient majoritaires n'avaient pas vraiment conscience à l'époque d'appartenir à une même identité religieuse, de relever d'un même groupe. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle l'hindouisme n'a pas eu de fondateur, on ne peut pas repérer la date de son apparition dans l'histoire du monde. C'est plutôt un ensemble de croyances qui s'est constitué, qui partage évidemment un certain nombre de choses, mais qui est surtout caractérisé par un grand éclatement, une extrême diversité. Cette œuvre, ces recensements du colonisateur britannique ont finalement beaucoup contribué à faire naître cette notion que l'hindouisme pouvait être considéré comme une religion à part entière, au même titre que l'islam, par exemple.
Vous parlez d'une religion à la fois très récente et très ancienne. Quels sont les grands principes qui constituent et qui guident l'hindouisme ?
Très difficile de répondre à votre question, justement parce que l'hindouisme, il est extrêmement divers. C'est plutôt un empilement, un enchevêtrement de croyances qui sont plus ou moins anciennes, certaines qui peuvent remonter à plusieurs millénaires, probablement. Je crois que, plutôt que d'abord en termes de croyances, quand on aborde l'hindouisme, il faut parler en termes d'agir. Je pense que ce qui caractérise l'hindouisme, c'est plutôt que ses adeptes partagent un certain nombre de pratiques. Pour vous donner quelques exemples concrets, il s'agit de la vénération d'images divines, de cultes rendus à des images divines, ce qu'on peut appeler malgré le côté sans doute négatif du terme, l'idolâtrie. C'est aussi, par exemple, la grande importance du culte des ancêtres et des offrandes faites aux ancêtres défunts. C'est la pratique de pèlerinage et notamment de bains rituels dont nous avons l'exemple en ce moment même en Inde avec cet immense pèlerinage dans des proportions gigantesques. Hein,
de 400 millions de voilà. personnes qui sont attendues.
C'est-à-dire environ un quart ou même un peu plus d'un quart de la population totale de l'Inde, hein, environ 1,5 milliard d'habitants pour arrondir. Donc la pratique de ces bains rituels, par exemple, voilà, une foule de... Donc je pense qu'on doit définir d'abord l'hindouisme plus qu'en termes de croyances, contrairement à ce qu'on peut faire justement avec le christianisme hein, ou avec l'islam, c'est en termes de pratique. Voilà, les hindous sont d'abord des gens qui accomplissent des rites, qui ont certains types de pratiques.
Quand on parle de l'hindouisme, on pense bien évidemment à l'Inde en premier lieu. Mais est-ce que l'hindouisme est présent autre part qu'en Inde ? Est-ce qu'il cherche à s'exporter ?
Alors, l'hindouisme, indiscutablement, est né en Inde. Après, c'est toujours un petit peu problématique parce que ce qu'on appelle Inde aujourd'hui, c'est un État qui a des frontières bien définies. Et dans l'histoire, quand on remonte évidemment avant les indépendances, avant la période britannique, bien entendu, on n'avait pas les mêmes contours. Disons qu'on parlera plutôt de l'Asie du Sud hein, ou du monde indien, donc qui regroupe aujourd'hui le Pakistan, le Bangladesh, mais même l'Afghanistan d'ailleurs en faisait partie. Et puis des États himalayens comme le Népal en particulier ou au sud l'île de Sri Lanka par exemple. Hein. Alors, je pense que l'hindouisme, il faut voir ce que, vu que ce n'est pas une religion structurée, ce n'est pas une religion de missionnaire au départ, ce n'est pas une religion de conversion. Hein. On est hindou parce qu'on est né de parents hindous, parce qu'on appartient à une famille hindoue, et l'idée de conversion à l'hindouisme au sens où les chrétiens le comprennent ou les musulmans le comprennent, cette notion de conversion n'existait absolument pas. Ce qui s'est passé plutôt, c'est que l'hindouisme a absorbé petit à petit un certain nombre de populations, de pratiques qui avaient des rites finalement relativement absorbables hein, pour lui, avec justement notamment ce fait d'honorer les ancêtres défunts, ce fait de rendre un culte, par exemple, à des plantes, à des arbres, à des pierres, donc des éléments naturels. Voilà, tout un certain nombre de choses. Donc, l'hindouisme a plutôt fonctionné comme ça, par assimilation, par absorption progressive de diverses populations, plutôt que par conversion. Certes, de nos jours, mais ça, c'est un phénomène récent qui, je dirais, date à peu près de la période contemporaine, mettons, du XXe siècle, et qui s'est un peu accentué dans la deuxième partie du XXe siècle, on a actuellement des personnes dans le monde entier, qui se convertissent à l'hindouisme. On a des maîtres spirituels indiens, hindous, d'origine hindoue, qui cherchent à convertir, à avoir des disciples provenant de familles, d'horizons culturels qui n'ont rien à voir avec l'hindouisme. Mais c'est quelque chose d'extrêmement récent et qui reste quand même très marginal.
Philippe Benoît, le premier ministre indien, Narendra Modi, fait preuve d'un intense activisme nationaliste hindou. Comment vous pouvez expliquer les relations étroites entre la politique et l'hindouisme dans l'Inde de Modi ?
Alors, pour bien comprendre ce en quoi consiste la politique de Narendra Modi, donc qui est premier ministre de l'Inde depuis 2014, il faut voir qu'il s'agit d'un projet politique nationaliste. Lui-même et son parti autour de lui défend l'idée que le nationalisme indien est finalement à inventer, que leurs prédécesseurs, qui sont aujourd'hui, disons, leurs adversaires politiques, n'ont pas réussi finalement à constituer un véritable nationalisme. Et constatant leur échec de leur point de vue, eux veulent justement, ont pour le souci de construire une Inde forte, puissante, influente dans le monde. Et l'outil le pilier qu'ils veulent utiliser pour fonder ce nationalisme, pour le rendre solide, c'est la religion, ce qu'on appelle donc l'hindouisme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est dans un pays quand même où la religion compte énormément. Pour les auditeurs français ou francophones qui vont nous écouter, évidemment, nous, on a une toute autre perception des rapports entre la religion et la politique et de la place de la religion dans la société. Pour nous, elle est un petit peu presque marginale ou minoritaire, finalement. Je veux dire, le nombre de personnes qui réellement pratiquent intensément une religion... Et même l'influence culturelle de la religion, du christianisme, par exemple, dans un pays comme la France, a fortement reflué. C'est absolument pas le même genre de situation en Inde. Là, les hindous sont des gens qui pratiquent leur religion très massivement, qui croient et, encore une fois, qui pratiquent, comme je le disais tout à l'heure, de manière très concrète, notamment par des rites, en général quotidiens, par des pèlerinages, par des visites au temple, par... toute une panoplie d'actes religieux qui font vraiment partie de la vie à chaque instant. Donc évidemment, dans un pays comme ça, où la religion, les pratiques et les croyances religieuses occupent une si grande place, la religion est un instrument formidable pour unifier les gens, éventuellement pour les diviser aussi d'ailleurs. Elle est, et on comprend que ce soit vers cet outil finalement, que un certain nombre de dirigeants politiques, que cette famille politique actuellement au pouvoir se soit tournée pour justement construire un projet politique solide et qui puisse vraiment s'ancrer dans la population, je dirais même dans l'âme des gens, et pas seulement dans leur raison.
Amis auditeurs, c'est déjà l'heure de la pause musicale. On se retrouve très vite avec Philippe Benoît. Restez bien avec nous.
Sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories they somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you.
God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows.
God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows.
There's a kind of love that there's a kind of love.
You keep a single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody, somebody, somebody sees you. Somebody, somebody will never leave you.
God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows.
God only knows what you've been.
Bien, mes auditeurs, nous retrouvons Philippe Benoît. Philippe Benoît, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, vous êtes spécialiste de l'hindouisme et vous nous parliez de l'influence de l'hindouisme dans la politique de Modi. Quels sont les objectifs de Modi ? Est-ce que c'est un calcul électoral ? Est-ce que c'est une manière d'unir son peuple ? Est-ce que c'est une volonté aussi d'opposition par rapport aux autres puissances à travers précisément cet outil de l'hindouisme ?
Alors, M. Modi est avant tout un homme politique, un militant politique, donc il cherche bien sûr à constituer un pouvoir fort et durable. Et comme je le disais à l'instant, en utilisant principalement la religion pour cela, il utilise un instrument extrêmement puissant dans un pays comme l'Inde. Par ailleurs, je crois que son objectif fondamental est de construire une Inde plus forte et qui devienne vraiment une nation. Comme beaucoup de pays qui ont été longtemps colonisés, la question de créer une nation ne va pas de soi, surtout que l'Inde a la taille d'un continent, avec une multitude de langues, avec de nombreuses religions autres que l'hindouisme, une multitude d'ethnies différentes. Donc la création de l'unité, l'unification du pays, de la nation, ne va pas de soi. Et justement, le parti de M. Modi appuie sur l'idée que les partis qui ont été au pouvoir précédemment ont échoué à construire une nation forte, qu'il y a des risques d'éclatement de l'Inde, notamment il y a le risque le plus imminent, bien sûr, étant le voisin pakistanais avec lequel il y a eu plusieurs fois des guerres et avec lequel la question du contrôle du Cachemire, état frontalier entre l'Inde et le Pakistan, est toujours une question brûlante. L'Inde est un très grand État, c'est un État fédéral aussi. C'est un État où, notamment dans les parties situées à la marge, il y a eu très souvent, et il y a encore, ça revient sans cesse, des mouvements séparatistes qui veulent s'émanciper, soit gagner leur indépendance, soit en tout cas s'émanciper le plus possible du pouvoir central à New Delhi.
Vous nous parlez d'une instrumentalisation de l'hindouisme. Est-ce que l'hindouisme proteste contre Modi ? Est-ce que l'hindouisme cherche à s'extirper de cette instrumentalisation ? Ou est-ce qu'au contraire, vous diriez qu'il profite du comportement de Modi ?
Alors, c'est difficile de parler de l'hindouisme d'une manière globale, parce que justement, il n'a pas d'autorité, il n'y a pas de pape de l'hindouisme, il n'y a pas d'université Al-Azhar de l'hindouisme qui déciderait de haut ce qui est bien ou pas bien, ou moins bien, ce qui est interdit, par exemple, etc. Il n'y a rien de tel. Il y a une multitude de maîtres religieux qui ont certes une grande influence. Évidemment, l'influence qu'ils ont dépend du nombre de leurs disciples, principalement. Concrètement, l'autorité dans l'hindouisme, ce sont surtout ces maîtres religieux, mais qui sont eux-mêmes extrêmement divers. Évidemment, le parti de M. Modi s'appuie beaucoup, évidemment, sur ces personnes, ces maîtres religieux, ces gourous, comme on dit familièrement, qui peuvent avoir une grande influence sur leurs disciples. Mais c'est une autorité qui est extrêmement éclatée, extrêmement diverse, et qui n'est pas si facile que ça à utiliser.
Monsieur Benoît, j'aimerais évoquer avec vous à présent le thème de l'hindouisme par rapport aux autres religions. Est-ce que dans les textes qui fondent l'hindouisme, les croyants sont invités à s'ouvrir aux autres religions ? Ou est-ce qu'au contraire, on a une vision très, très auto-centrée de l'hindouisme ?
Alors, les textes, la quasi-totalité des textes de l'hindouisme, qui sont là aussi extrêmement divers, ignorent à peu près totalement les autres religions. Notamment parce que beaucoup de ces textes ont été composés à des périodes finalement, où les grandes religions qu'on connaît aujourd'hui et qui comptent dans le monde, comme le christianisme ou l'islam notamment, n'étaient pas présentes dans cette partie du monde, ou n'existaient même pas d'ailleurs, tout simplement. Donc, les textes, normalement, la quasi-totalité des textes hindous ne parlent pas des autres religions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder en tête que l'hindouisme, au départ, même s'il y a quelques velléités de changement depuis quelques décennies, n'était pas une religion de conversion, n'était pas une religion de prosélytisme. Par conséquent, les relations de l'hindouisme avec les autres religions, maintenant de l'ordre vraiment de la cohabitation, puisque diverses religions sont présentes dans cet ensemble du monde indien. Mais il n'y a pas véritablement la possibilité d'un dialogue ou d'échange entre les diverses religions, justement parce que les hindous se préoccupent finalement très peu des autres religions. Hein, ils ont déjà, je pense, beaucoup à faire avec la leur, qui est tellement éclatée. Ils ont déjà beaucoup d'efforts à faire pour se trouver des points communs entre eux, pour se fédérer. Et du coup, je pense que ça aussi contribue au fait que les autres religions, on les voit un petit peu, on les ignore le plus souvent.
Sur le plan spirituel, on comprend bien qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de points communs, de ressources pour avoir un dialogue potentiel. Et pourtant, sur le plan historique, quand on observe l'hindouisme, on se rend compte qu'il y a eu des conflits avec l'islam, notamment dans le début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce conflit avec l'islam ?
Oui, je vous en parlerai, mais pour justement, pour répondre peut-être à quelque chose que vous avez mentionné, il faut dire quand même que même si on ne peut pas parler véritablement de dialogue hein, interreligieux entre l'hindouisme et d'autres religions, par contre, il y a eu, de manière très profonde et très durable, des formes de syncrétisme, notamment entre des milieux hindous et des milieux musulmans, notamment pendant la période médiévale, et que cela a quand même beaucoup marqué l'histoire religieuse du sous-continent indien. Ce qu'on appelle les fakirs ou les baouls, donc qui sont des personnes à la frontière, un petit peu à l'intersection entre l'islam et l'hindouisme, très souvent. C'est quelque chose qui est un mouvement populaire, vraiment parti de la base, on peut dire, hein, qui ne doit rien à une intervention là venue d'en haut, au contraire. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la spiritualité en Inde. Donc, même si on ne peut pas parler de dialogue interreligieux, par contre, il y a, dans une certaine mesure, des formes de syncrétisme qui ont eu une action très puissante et qui sont toujours là, même si souvent, ces formes déplaisent fortement notamment à l'islam sunnite, comme on le sait, et c'est vrai dans d'autres parties du monde, d'ailleurs.
Et sur quoi reposait cette cohabitation dont vous nous parlez ? Qu'est-ce qui permettait, justement, cette non-violence ?
Alors, ce qui l'a permis, c'est, je pense, surtout que dans les milieux populaires, finalement, les gens étaient beaucoup plus, probablement, dégagés du ritualisme pur, hein, et s'intéressait peut-être, était davantage en quête d'une religion et d'un espoir qui finalement fasse fi des identités religieuses traditionnelles. Et cette démarche a beaucoup rapproché les gens, des gens qui souvent étaient peu éduqués, peu au fait finalement des textes et des pratiques de la religion à laquelle ils appartenaient de par leurs origines familiales.
Monsieur Benoît, il y a quelques semaines, je recevais Benoît de Blanpré, directeur général de l'AED, pour parler d'un rapport, le rapport 2025 de l'indice mondial de persécution des chrétiens. Et cet indice classe l'Inde 11e parmi les 50 pays où les chrétiens de toute dénomination sont les plus persécutés. Il souligne que, je cite, « Pour un pays qui se décrit comme la plus grande démocratie du monde, le niveau de violence contre les chrétiens depuis 5 ans est extrêmement élevé. » On constate des violences, et j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Comment expliquer ces relations tendues entre les autres religions et l'hindouisme ?
Alors, je pense que du point de vue de la majorité des hindous, et notamment des hindous qui sont politisés dans le cadre du régime actuel, ils ont tendance à voir les religions, en particulier l'islam et le christianisme, comme des religions intrusives dans l'espace indien. Ce sont des religions venues d'ailleurs. Dans le cadre de l'islam, ce sont des religions, c'est une religion de conquête, toujours vue du point de vue hindou majoritaire. Pour le christianisme, c'est facilement associé avec le colonialisme, avec l'histoire coloniale. Ce qu'on reproche surtout à ces religions, c'est la pratique des conversions, c'est le prosélytisme. L'idée étant que, en fait, ces conversions ciblent en particulier les secteurs les plus pauvres de la population. Et là, il y a un véritable enjeu politique pour le pouvoir actuel qui est de ne pas laisser ces catégories de la population, cet électorat potentiel, filer en direction d'autres religions et donc avoir de plus en plus de chances dans ce contexte d'échapper à l'influence politique du BJP, le parti au pouvoir actuellement.
En guise de conclusion, Monsieur Benoît, quelle perspective pour le futur sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan spirituel, comment l'Inde de Modi et l'Inde hindoue va-t-elle se projeter dans le futur ?
Alors, je pense que moi, ce que je verrais le plus, c'est que l'action politique du pouvoir actuel en Inde a des conséquences importantes sur la nature même de l'hindouisme et en aura sans doute encore beaucoup dans le futur si ce parti se maintient au pouvoir, toutefois, à savoir notamment un facteur d'unification de l'hindouisme qui était si éclaté jusqu'à présent.
Merci beaucoup. Philippe Benoît, professeur à l'INALCO et spécialiste de l'hindouisme, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous, amis auditeurs, d'être toujours aussi fidèles. N'hésitez pas à partager largement ce podcast. Je vous souhaite une excellente semaine, amis auditeurs. Que la paix soit avec vous.